Bibliothécaire secrète.
De ce point de rencontre, je vais aborder deux thématiques éprouvées de part et d'autre dans les lettres et dans la sonate. Une pratique du silence qui diffracte la motricité du jeu, aussi bien du jeu épistolaire que du jeu musical. D'autre part, le fait d'enregistrer qui semble induire beaucoup en plus d'impliquer. Et de là, une opportunité pour réfléchir ce que pourrait être une archimétrie, tout à la fois la grande envie de varier au possible les facteurs de métrage jusqu'à solliciter une écoute qui tiendrait pour dynamique le travail même de cette variation, ce qui alors présenterait le magnifique avantage d'en finir plus ou moins de surchauffer cependant la surenchère préfixielle que la métrique devra subir pour ce faire. Les silences permettent des changements de plan, c'est comme un espacement, les tests déjà, mais le voilà plus spatiaux et temporels cette fois, me semble-t-il. Or, la succession des plans, en généralisant, comme à la radio, l'impossible écrasement d'une séquence par une autre, la distribution des points de montage peut s'entendre ou se fondre, la fraîcheur de l'arrivant n'est jamais tout à fait jaillissante, toujours des possibles nouveaux peuvent surgir, n'est pas la fête des éclats, reste nécessairement croissance et décroissance, des intensifications de n plus 1 par le fait que plus 1 des fois est peut-être quelque chose comme n prime. On y fait l'épreuve du blabla et on ne peut pas se satisfaire que ce soit vraiment une épreuve, auquel cas ce serait pas fade parce que tout de suite intéressant. Je dis fade genre intéressant pour dire que l'intérêt est en retard. Mmh. Ou effectivement, demande de reprendre son souffle, de remesurer l'intérêt des silences. Et ce qui permet alors justement pas de regonfler des choses fades, mais voilà. Non, mais ça reste fade quand même. Voilà. Ouais. Il ne s'agit pas de sortir de ça, de la fadeur.
C'est chinois.
De
la
fadeur.
Oui. Dis-le à tout le monde. Dis-le à nous tous.
En terminologie Guinness, peut-être la plus longue sonate Deutsch 960 du monde, 48 minutes 22, contre 36 ou 37 minutes selon les versions chez Brendel, 32 minutes pour Horowitz, Serkin et Kempf allant autour de 42-43 minutes. Cela dit, le nombre des silences est bien un indice. La longueur investie à elle seule peut-elle évoquer en tout cas une volonté de, comme on dit, prendre le temps. En prenant le temps, c'est donc qu'il n'y a pas à le faire parler, à décocter le mimétisme. S'il faut ralentir, si cela doit s'imposer comme une nécessité, en reprenant le lexique des lettres d'Afanassiev, c'est qu'il y a question de rime. Afanassiev évoque la rime comme étant l'élément qui permet en fait de différencier un Parménide Mozart, où tout l'opéra est contenu dans l'ouverture, et Héraclite, tel que nous l'entendons à la suite d'une nécessité, la question est à la clé, en quelque sorte, heureusement, un peu, mais a priori cela risque d'être rébarbatif, encore une question de rime, cela n'est pas fait pour être agréable. Entendons, en ralentissant encore, la question de la rime, c'est donc l'entournure, mieux entournure, si visage bien pris, le retour du signifiant, le mérite de définir rime par réductionnisme linguistique. C'est la ressaisie rythmique de ce qui aurait pu passer plus vite, mais au fond plus vertical, plus harmonique. Ce ne serait pas rigoureux de dire qu'on y aurait perdu en mélodie, ce serait surtout encore très harmoniste, ce serait prêté à l'accord jamais qu'une présubstantialisation de ces possibles, et elle peut bien être prêt. Elle est quand même une substantialisation, comme s'il fallait l'imagination toujours transcender si bien debout, mais de ce debout en permanence qui fait bien intenable, quand mélodie n'aurait même plus besoin de s'étendre. C'est donc une idéologie que l'extensionnisme en poésie, c'est bien sûr impraticable, la vision luxuriante, oisive et voluptueuse de la lenteur, même Rousseau voudrait laïciser l'harmonie, ou pour entendre Voltaire sur un autre temps. Au deuxième mouvement, la démarcation entre les lignes, vous avez la première ligne de l'andante sur l'exemplier, la démarcation entre les lignes dont la verticalité relève du regroupement en accord et une autre verticalité de cette tessiture élargie qu'elles amènent par durée plus éparse et plus serrée, chacun sa verticalité entre les deux mains, donc il y a une histoire de... Dans les lettres, il y a une histoire de vieillard qui parle de son premier baiser et qui parle de tout ce qui s'est passé un peu dans ses qu'il garde en mémoire comme étant ce qui s'est passé hier soir. Saturation du souvenir sur le hier soir, donc pathologisé à l'échelle de cette mesure qui est définie entre un silence et un déclic. La pathologie ne va jamais finalement au-delà du déclic, enfin, de l'arrêt de l'enregistrement. Je voudrais en soi presque pouvoir entendre un pianiste qui n'a pas à objectiver ses partis pris d'interprétation en plus et en même temps qu'il interprète, c'est même terrible comme il pèse de nos jours, oui, un devoir d'auto-objectivation, fût-il assumé par des secondes mains critiques et dûment habilitées par dix courtoisies platement dialectiques s'il faut qu'elle vise la raison d'être en creux de la secondairement médiate justification méta-interprétative, c'est-à-dire surtout, très affreusement terroriste, si ce n'est pas exactement la question d'une surenchère paratextuelle à l'ancienne, c'est bien encore parce qu'on peine décidément à lui trouver un versant positif et bien assez pétaradant pour aussi faire tout autre chose que répliquer au dit devoir. Comme on demande que systématiquement, rien d'autre, aux candidats à quelques députations de faire preuve de non-corruption, des fois que la présomption de transparence serait encore abusée, du moins ne disent-ils rien d'autre tout en disant « des projets et encore des projets ».
C'est bien ça, à force de chanter la mélodie du temps, mon horloge s'est enrouée. Et...
Ouais.
C'est une sonate qui a été écrite pour ça, pour qu'on en fasse poème.
À l'ancienne, disais-je, mais il n'est pourtant pas possible que la motivation de Valéry Afanassiev au moment de jouer la 23e sonate de Schubert ait été d'un ordre défensif. Puisqu'il n'y aurait plus rien que la défense, là où quelques caractéristiques formelles emblématisant des partis pris, d'ailleurs, il n'est pas admissible que l'écoute consiste à débusquer la motivation d'Afanassiev. Quant à la question, qu'a-t-elle l'interprétation d'Afanassiev ? Elle ne peut d'autre échelle qu'une autre écoute. La question de la spécificité pour reléguer celle de la version est là bien trop pressante pour être porteuse, et l'envie d'écouter d'autres versions très vite très boulimique pour pouvoir laisser émerger quelques pré-catégories pour donner ses dignités à l'exercice comparatiste. Le fait de la pluralité pourrait peut-être se dire plus à ras. Je me suis dit qu'une réflexion sur des prosodies alternatives serait une recherche opportune pour, joie, ne jamais aborder que les dernières pages de Schubert en tant que testamentaire obsédé d'emblématisme. C'est donc maintenant que les lettres sonores disent long sur, ne serait-ce que, le fait de l'enregistrement. Sur ce fait, nous pouvons toujours dire qu'il implique une couche connotative qui ne gêne pas forcément l'écoute, peut quand même donner des occasions radieuses, ne pourra peut-être pas tenir comme axe de recherche assez excitant longtemps. Nous pouvons donc dire, du fait de l'enregistrement, quant au cours de l'œuvre de Schubert, fort manifestement perturbé et refondé par les aspirations qui font son cours rugueux, pour autant que le dynamisme en soi mieux problématique, sans vraiment heureux d'encore si mal dialectique, il faudra bien permettre une expression pareille. Quant à Afanassiev, écoute Schubert, troisième envoi, troisième cassette, face 1, c'est pour changer de sujet. Le précédent commençant à dire les changements trop indémêlablement, sur ce, néanmoins, Afanassiev dit « La musique ne répond pas à nos humeurs et l'émotion qu'on éprouve en l'écoutant n'est pas un appendice de notre anxiété, mais un phénomène tout différent, tributaire de la musique, de son développement autonome. Cette émotion grandit, nous comprenons à quel point la souffrance musicale, organisée selon les lois objectives de l'art, est supérieure à nos souffrances qui suivent d'une manière désordonnée les incidents de notre vie. »
J'imagine que vous vous êtes cru dans le passage à la naissance de la tragédie où les ménades sont en train de descendre les degrés, et puis les spectateurs sur les gradins peu à peu se transforment eux-mêmes en ménades, et les applaudissements à Dionysos viennent se fondre dans Monsieur Deutsch, 960 mesures.